Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire, aujourd'hui, une émission spéciale bande dessinée dans laquelle nous aborderons, en compagnie de son créateur, à savoir Jean-Michel Ferragatti, l'anthologie Centaur Chronicles, qui est signée par divers auteurs, hein, vous en saurez plus en écoutant l'interview, qui est disponible donc chez FG Prod. Nous aborderons également Slum Kids 2 de Petit Rapace, une nouvelle production du label 619 qui est parue chez Rue de Sèvres Édition. Nous causerons de Traces de sang de Gino D'Antonio et Sergio Toppi, disponible chez Fordis Édition. Toujours chez Fordis, nous aborderons la BD Un dragon en forme de nuage, parue dans la collection Tourment. BD signée, excusez du peu, Ettore Scola et sa fille Silvia Scola, avec au dessin l'incroyable artiste Ivo Milazzo. Et enfin, en compagnie de Sansi Kabadiakite et Kenneth Viotogbe, nous aborderons la BD Enfa, le fils de Kankula, BD dont ils sont les co-auteurs évidemment et qui est disponible chez L'Armatan. L'équipe de Culture Prohibée remercie Christine Leriche, Camille Montero, Virginie Robert et Jean-Michel Ferragatti pour leur aide sur cette émission. Pour aborder le 9e art, je suis aujourd'hui accompagné de celui qui est surnommé le loup-garou picard, à savoir Thomas Roland, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme et bonjour à toutes les bédéphiles.
Nous allons débuter cette émission avec Jean-Michel Ferragatti. Alors Jean-Michel Ferragatti, vous le connaissez, il est déjà venu plusieurs fois dans cette émission. Il a décidé de sortir de l'anonymat les productions Centaur Comics, hein, qui sont tombées dans le droit public en les réinterprétant, les remettant au goût du jour, tout en étant aussi très respectueux du matériau d'origine. Alors il y a déjà eu plusieurs volumes, hein, qui sont tous disponibles chez FG Prod. Et là, chez FG Prod, vous pouvez acquérir l'anthologie Centaur Chronicles, qui réunit toutes sortes de dessinateurs et même parfois d'autres scénaristes que Jean-Michel Ferragatti, et aussi des dessinateurs venus de l'érotisme et tout ça. Enfin là, il a vraiment élargi son panel pour nous concocter cette anthologie. Et bon, ce que je vous propose, c'est qu'on discute avec l'instigateur du projet, à savoir Jean-Michel Ferragatti, de cette anthologie, donc cette anthologie Centaur Chronicles, disponible chez FG Prod. Donc tout de suite, Jean-Michel Ferragatti au micro de Culture Prohibée. On va démarrer par Phantom of the Fair, qui est donc le premier segment que tu proposes, qui est un mélange, je trouve, un peu entre, évidemment, Victor Hugo, les comics. On mélange aussi d'ailleurs le noir et blanc, les couleurs, et puis c'est Jean-Marie Minguez qui dessine. Et là, il a un trait, je trouve, qui rappelle un dessinateur qui est peut-être pas tant connu que ça, mais qui est un très chouette dessinateur qui s'appelle Charles Vess. Peux-tu nous en dire plus sur ce segment, puis comment vous avez travaillé avec Jean-Marie Minguez, qui est maintenant un de tes acolytes depuis quelques temps déjà?
Bah, en fait, il est là depuis la création du projet en 2017, puisqu'il a fait toutes les couvertures de la série principale. C'est lui aussi qui fait la couverture de l'anthologie. Et là, donc, il avait fait 8 pages, qui étaient une sorte de scène coupée dans le volume 4, de son personnage fétiche, qui est Phantom of the Fair. Donc, rien d'étonnant à ce qu'on ait Jean-Marie sur un segment de Phantom of the Fair. Oui, en effet, tu as raison. Je vois ce que tu veux dire, une certaine parenté. Alors, ce segment, il est né sur un des festivals de Saint-Malo. Phantom of the Fair, donc c'est un personnage qui est inspiré, un personnage de Paul Gustafson, donc dessinateur américain, qui s'inspire du fantôme de l'opéra pour le transcrire à l'époque moderne, c'est-à-dire pour lui 1939. Et comme le fantôme à Paris hante l'Opéra Garnier, le fantôme à New York va hanter l'exposition universelle de New York, d'où Phantom of the Fair, qui veut dire en français le fantôme de l'exposition. Nous, enfin moi scénaristiquement en fait, j'ai rattaché cette information métatextuelle hein, qui est hors de l'univers, tout simplement en faisant du fantôme de l'exposition le fantôme de l'opéra. Donc c'est le même personnage qui traverse les siècles et qui à l'époque donc hante le fantôme hante l'opéra à Garnier, l'opéra de Paris. Donc cette discussion sur le festival de Saint-Malo qui débute aboutit à, ça serait sympa de faire un épisode, une sorte de préquel, où on voit Phantom of the Fair à l'époque où il est le fantôme de l'opéra. Ok, très bien, mais on est dans un monde de super-héros, donc il lui faut lui trouver un adversaire. Et donc là, on ne va pas spolier plus, en effet, mais on lui trouve un adversaire qui est à la fois le symbole d'un autre monument parisien et également lié au monde des comics à travers son auteur qui est Victor Hugo. Donc on est parti sur ça comme idée. Paul Gustafson avait connu le fantôme de l'opéra au travers de l'adaptation cinématographique en muet, noir et blanc, donc pas avec comme acteur principal Lon Chaney. Donc on repart un peu de cette ambiance. Et on fait donc un épisode qui se passe à la belle époque parisienne, en noir et blanc, avec un parti pris graphique qui est que les éléments visuels du fantôme qui sont sa cape, et qui maintenant sont sa capuche, sa cape et sa ceinture, sont en rouge. Donc on a une sorte d'épisode qui fait référence à tout ça, donc culture populaire, cinéma noir et blanc, ambiance un peu gothique, voilà, donc qui donne ce magnifique, je trouve, épisode de 20 pages où on suit Phantom of the Fair, maintenant le fantôme de Paris, à la cour des miracles.
Alors, il y a aussi deux histoires dans cette anthologie, donc qui s'appelle donc Anthologie Centaur Chronicle Présente, ce qui est disponible chez FG Prod. Deux histoires de The Clock, qui est le premier héros masqué de l'histoire des comics. Et il y a une histoire qui est entièrement réalisée par Grégory Watine. Alors là, tu as laissé les clés à Grégory Watine. Et puis une autre qui est illustrée par Edo. Alors les deux avaient travaillé sur Fantoman, un précédent fascicule, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus. Alors l'histoire qui est illustrée par Edo, c'est toi qui fais le scénario, et c'est pareil, on est sur un très beau noir et blanc. Alors je trouve même que ça évoque un peu José Muñoz, ce dessinateur argentin qui a vraiment un style très marqué.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, oui, alors. L'anthologie, elle s'appelle Centaur Chronicle Presents parce que c'est notre deuxième ligne. On a deux lignes éditoriales. On a la ligne principale qui est vraiment la continuité de l'univers Centaur, qui est donc, comme je disais, cartonné, papier couché brillant. Et puis, on a une autre ligne qui s'appelle Centaur Chronicle Presents, donc qui est en référence au célèbre Stanley Presents, qui en anglais veut dire en effet plutôt Stanley vous offre, Stanley vous donne. Et là, on a des fascicules en format souple avec du papier demi-mat, donc un petit peu plus, enfin moins brillant. Donc ça, c'est vraiment la ligne. On a fait en effet Fantoman, qui est un fascicule one-shot un peu particulier. C'était le premier fascicule que je ne scénarisais pas. C'est Laurent Artaud, le scénariste d'Oplitéa, qui a voulu se lancer dans l'univers Centaure, et donc je lui ai fait une petite place avec un univers un petit peu particulier. En effet, c'était Edo qui dessinait l'épisode principal de Fantoman. en sachant que c'était un épisode qui a été dessiné après l'épisode de l'anthologie. L'anthologie, c'est la première contribution à Eudo pour l'univers Centaur Chronicles. Je vois ce que tu veux dire, en effet, un très beau noir, noir et blanc, polar, donc ambiance polar, avec The Cloak, qui est le premier héros masqué de l'histoire du comic book, en effet, qui va nous faire découvrir plusieurs endroits réels, hein, tous les endroits que l'on voit de New York sont réels, dans une espèce de course contre le temps. Voilà, donc ça c'est moi qui l'ai scénarisé. C'était des demandes que Edo avait fait. Il voulait des choses bien particulières, donc je lui ai fait un scénario sur mesure, 20 pages, avec un twist à la fin. En effet, je trouve l'épisode très sympa. L'épisode de Grégory, en effet, c'est quelque chose d'un peu particulier. Pendant que j'étais en train de composer l'anthologie, Eric Van Helsland me dit bah tiens, j'ai un pote, Grégory, qui a une histoire qui est déjà quasiment finalisée. Le crayonné avait été entièrement fait pour un projet américain d'hommage au personnage du Golden Age américain, donc The Cloak, et qui ne se verra jamais le jour. Donc il a cette page orpheline. Donc j'ai contacté Greg, que je connaissais par ailleurs, et je lui ai proposé, même si l'histoire n'avait pas été dessinée pour l'anthologie et qu'on avait déjà un personnage, une histoire de The Cloak, de néanmoins faire passer ces planches qui, je trouvais dommage, restent dans une farde plutôt que d'être offertes au public. Donc là, en effet, c'est vraiment Greg qui a tout fait, scénario, crayonné, ancrage et couleur.
Et après, dans cette anthologie, il y a aussi il y a trois histoires, trois moments de la vie d'une des héroïnes de l'univers Centaur Chronicles, qui est Blue Lady. Et évidemment, moi, j'ai été interpellé par la nouvelle version de ses origines, alors qu'il y a un côté Péril Jaune, Fu Manchu, Masque d'Or de Charles Brabin, avec un côté un peu William Moulton Marston aussi. Et là, on est chez Xavier Duvet, qui est un, comment dire, qui réinterprète donc l'épisode d'origine de Frank Frollo. Xavier Duvet, qui est un dessinateur que je connais pour d'autres raisons plus polissonnes, puisque c'est un spécialiste de la BD érotique. Donc je suis étonné de le retrouver dans ton univers. Comment vos deux univers se sont rencontrés?
Alors, en fait, Xavier, je le connais depuis pas mal de temps. On a des passions communes qui sont les jeux de rôle. Il a été au début de carrière illustrateur pour un magazine que les rôlistes canadiens qui s'appelle Casus Belli. Et puis, c'est un fan de super-héros. Quand il était plus jeune, vers 16-17 ans, il avait fait un petit fascicule qui s'appelle Wise Ghost, qu'il a ressorti, en l'ayant complètement redessiné, bien sûr, il y a quelques années maintenant. Donc, il a un univers, en plus de son univers, en effet, érotico-pornographique, de super-héros. Et donc, on s'était vu plusieurs fois quand je travaillais dans une société, un petit laboratoire pharmaceutique qui était basé à Villepinte. Lui, il était en fait à côté, il habite à côté, donc on se voyait de temps en temps pour déjeuner. Et il me dit, ouais, j'aimerais bien refaire du super-héros, je trouve ton univers super sympa, donc j'aimerais bien faire quelque chose pour toi. Et moi, en lisant les épisodes, il y a eu trois épisodes, si mes souvenirs sont bons, originaux de Blue Lady, j'avais eu un sentiment d'ambivalence sur ce personnage. Non seulement il y a le côté, en effet, un peu fantasmé de l'époque de l'Orient, le Péril Jaune, etc., qui était visible dans le premier épisode, mais il y avait aussi un côté un peu ambivalent, je trouvais, sur ce personnage, avec quelque chose qui, du coup, se rapportait un peu de l'univers de Xavier, de l'univers polisson, comme tu dis, de Xavier. Et donc, je lui dis, bah tiens, j'ai ce personnage-là où je trouve que ça mériterait une relecture avec un côté un peu au minimum sensuel, voire potentiellement un petit peu érotique. Et donc, il lit les épisodes, il envoie les épisodes d'origine, il me dit oui, je vois ce que tu veux dire. Il me dit ouais, je peux faire quelque chose. Et il me dit par contre, voilà, on va pas faire un scénario nouveau, même si on a des idées de scénario nouveau. On va plutôt réinterpréter le premier épisode. Et par contre, j'ai une condition, c'est que je veux pas utiliser ce costume totalement ridicule. Il n'a pas complètement tort. De ce personnage. Donc, on a mis tout ça dans les pages que tu as lues. Donc, c'est en noir et blanc, qui est un noir et blanc vraiment magnifique, avec voilà le dessin de Xavier qui est extraordinaire. et où on réinterprète ces épisodes avec les petites manies entre guillemets de Xavier, donc les nuisettes, les jartelles, les petites bottines, qui fait un épisode vraiment extraordinaire.
Écoutez Jean-Michel Ferragati, l'homme derrière l'anthologie Centaur Chronicles, paru chez FG Prod, au micro de Culture Prohibée.
Il y a aussi donc dans les épisodes la Blue Lady, dans les trois moments Blue Lady, on va dire ça comme ça, ça rencontre de la fin des années 50 avec Black Panther en guest star par Eric Van Helsland, qui lui est un vieux compagnon de route, donc enfin depuis quelques temps déjà, sur un de tes scénarios. Et tu expliques dans le texte qui introduit la BD que ça part d'un travail non rémunéré de l'artiste qui t'avait un peu mis en colère, si j'ai bien compris.
Ouais, en fait, Eric, comme d'autres artistes hein, de cette anthologie, comme quasiment tous les autres artistes de cette anthologie, essaye de percer dans le monde des comics anglo-saxons et régulièrement va voir le scout talent européen de Marvel, allez, on donne le nom, Marvel Comics, qui donc très régulièrement leur donne des débuts de scénario à illustrer avec des délais assez courts, etc., pour voir s'ils sont capables de faire ça. Donc, il donne un scénario, un début de scénario, il n'y a pas de dialogue, il y a juste les indications, et ils disent, voilà, tu vas faire 6 pages, tu nous envoies les 6 pages, et en fonction de ce que tu envoies, on te dit si oui ou non, on va te mettre sur un travail classique, quoi. Et donc, Eric, Gaël, Jean-Marie ont été plusieurs, il n'y a pas que Marvel, hein, pour être honnête, il y a aussi DC. Qui donne ce genre de choses. Et donc, un jour, en feuilletant le portfolio d'Eric, je vois donc ces 6 pages avec 2 personnages connus de Marvel, et je lui dis, mais c'est quoi? Il m'explique, quoi. Et je lui dis, elles sont plutôt... Enfin, je les trouve cool et tout. Il me dit, oh, mais je peux rien en faire. Il me dit, mis à part vendre les originaux, parce que ça, j'ai le droit, le reste, je peux rien en faire. Donc, ça me trotte dans la tête, et à un moment, je lui dis, écoute, voilà, on va compléter ton épisode avec 2 pages totalement inédites. On va modifier les costumes des personnages et en fait, on va réutiliser tes 6 pages. Comme ça, je vais te les payer et tu n'auras pas bossé pour rien. Et donc, voilà comment on est parti sur cet épisode qui est venu s'intercaler. Et donc, en effet, les 2 personnages sont devenus Blue Lady et Black Panther, avec 2 pages supplémentaires qui, en plus, sont totalement dans la continuité Centaure et permettent d'avoir un twist de fin qui font qu'on a vraiment un épisode complet intéressant pour le lecteur.
Ouais, je partage. Il y a aussi dans les trois segments Blue Lady la première apparition de White Panther par son créateur Will Sharp. D'ailleurs, peut-être tu pourras revenir sur votre rencontre, tout ça sur des ébauches, les layouts d'Eric Van Helsland. Les couleurs de Timothy C. Brown aussi, qui n'est pas n'importe qui, hein, qui a travaillé sur le crossover Kiss Army of the Damned, Army of Darkness, pardon, issu de en lien avec l'univers de Sam Raimi et des Evil Dead. C'est là aussi, c'est un épisode vraiment de toute beauté et qui est on apprend des choses aussi dans le texte d'intro. Tu t'expliques aussi que les super-héros noirs n'étaient pas forcément noirs, en fait. Ça peut être assez surprenant, ça.
Ouais, alors oui, alors donc Gail que j'ai rencontré un jour à la table d'Eric, parce qu'ils sont très copains, ils avaient une table commune à l'époque Comic Con Paris, et donc on discute, on échange, etc. Et Gail qui est très impliqué sur beaucoup d'aspects des comics, et notamment sur la partie diversité et Afrique. Il est lui-même d'origine par ses parents africains. Et en effet, on parle de tout ça. Et c'est vrai que nous, chez Centaure Chronicles, on a dès le début essayé d'avoir une démarche très inclusive, mais ce n'était pas facile parce qu'en fait, on a des personnages qui ont été édités dans les années 40. Et dans les années 40, la diversité n'était vraiment pas quelque chose qui était ni à la mode, ni à l'affiche, on va dire. On a quand même pas mal de chance avec l'univers Centaure, parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent en Asie. Donc on a beaucoup de personnages asiatiques. On a pas mal de personnages féminins, ce qui n'était pas si évident que ça pour l'époque. Mais par contre, on a en effet pas du tout de personnages qui sont issus de descendance africaine, donc afro-américain ou africain. Et donc, avec Gail, que je rencontre, avec qui on continue d'échanger, à un moment, pour une des campagnes, on fait toujours des sketchbooks pour les 4 premiers volumes, c'était pour le 3e volume. Je lui dis, est-ce que tu veux pas me faire une pin-up d'un personnage. Il me dit, écoute, oui, pourquoi pas, mais voilà, moi j'ai des conditions parce que je suis un artiste rémunéré, notamment pour Marvel, etc. Donc on se met d'accord sur une pin-up, et puis au fur et à mesure de la campagne, je vois qu'il poste sur Facebook plein d'autres pin-ups. Du coup, je lui envoie ce que j'appelle mes sweep files, c'est-à-dire les visuels des personnages originaux de Centaure, donc des 60 personnages. Et je vois tomber sur Facebook de plus en plus de personnages. Donc je lui dis, on est d'accord, on était d'accord pour une pin-up, quoi. Et là, tu en as au moins une demi-douzaine, quoi. Et au final, il en a fait 24, je crois. Et il me dit, ouais, mais j'adore tellement cet univers. Voilà. Et donc, on parle là-dessus. Et il me dit, bah, il y a un personnage qui est sympa, mais d'une certaine manière que je ne vais pas dessiner, qui est Black Panther. Black Panther, le Black Panther original, il y a eu un épisode de Black Panther par Paul Gustafsson chez Centaure en 41-42. Et on discute de ce personnage-là, il dit c'est quand même dommage que Black Panther soit un homme blanc. Il dit c'est quand même incroyable, quoi. Et donc il part sur un principe de complètement inverser le personnage. Et donc il crée ce personnage de White Panther, qui donc n'est pas un homme mais une femme, n'est pas blanc mais est métisse, et dont le costume principal n'est pas noir, parce que le costume de Black Panther est noir, mais est blanc. Donc tu fais vraiment une version inversée de Black Panther. Et à partir de là, on commence à se dire, OK, comment on l'appelle? Ben, on l'appelle White Panther, mais qui est ce personnage? Donc voilà comment on est arrivé à ce segment de Gail, qui dessine pas beaucoup de pages, donc je suis assez fier parce que je pense que c'est sa deuxième parution de pages dans le sens histoire contenue après Noir is the New Black de Fabrice Sapolsky chez Fair Square Comics aux États-Unis. Et donc voilà, on parle là-dessus. En effet, à l'époque des années 40, le plus souvent, il n'y a pas de personnage noir, qu'ils soient africains ou de descendance africaine. Les rares personnages sont en fait des caricatures. On peut citer Ebony, qui est le sidekick de Spirit de Will Eisner. On peut citer l'espèce de serviteur, on va dire, de valet de Billy Batson, qui est Captain Marvel Shazam, qui s'appelle Steamboat, en référence à la fumée noire qui sortait des cheminées des bateaux à roues à aubes qui descendaient le Mississippi. Donc voilà, donc des personnages quand même très caricaturaux. Et il faudra attendre Black Panther hein, chez Marvel dans les années 60 pour avoir un personnage africain de descendance afro-américaine vraiment établi. Et comme je le disais dans l'introduction, dans les années 40, il y avait eu un personnage qui était un natif des îles, donc un peu africain, pas vraiment africain, en tout cas très métisse, mais qui est assez étrangement Red Mask sur les couvertures était représenté comme un homme blanc. C'est-à-dire qu'il n'y avait que dans les pages intérieures, on comprenait que c'était un natif des îles. Donc il y a un vrai racisme, et donc nous, on retourne un petit peu ce racisme à travers ces histoires-là, à travers les trois épisodes, les trois segments, notamment les deux derniers de l'histoire de Blue Lady. On retourne ça pour introduire des personnages qui sont afro-américains, et donc notamment White Panther, donc qui vient de tout ce cheminement qu'on a eu avec Gail sur la place des personnages afro-américains ou africains dans l'histoire de la bande dessinée américaine.
Pour rester dans le domaine de l'inclusion et des minorités qui étaient quand même très très peu représentées dans la bande dessinée, on peut parler de Mantoka. Alors Mantoka, il intervient dans un épisode où, comment dire, le personnage de The Arrow, dont on avait parlé dans nos précédents entretiens, qui entretient des liens avec Green Arrow, justement, mais il vient avant. Un épisode qui se passe dans l'Ouest sauvage, et donc là, qui est, qui est dessiné par André Vaz. Et ce Mantoka, c'est un personnage indien, en fait, un personnage natif, puisqu'on sait qu'on a appelé les Indiens indiens parce que Christophe Colomb était sûr d'être arrivé en Inde. Voilà, donc c'est un personnage en fin de compte assez peu, enfin quasi inconnu, mais en tout cas.
Ouais, alors c'est un personnage. Là encore une fois, on a énormément de chance dans l'univers Centaur Chronicles, c'est que pour une raison que j'arrive pas très bien à m'expliquer, sans doute parce que les auteurs avaient vraiment très peu de suivi éditorial, donc on leur laissait la longe très très longue par rapport aux contraintes éditoriales de l'époque. Et donc on a ce personnage qui est le premier personnage indien, personnage natif indien, nation première, de l'histoire du comic book, qui est dessiné par Jack Cole, le père de Plastic Man, donc un dessinateur extrêmement connu. Et il y a un épisode, voilà, il y a un épisode dans Centaur où on voit ce personnage qui est en effet un natif indien, qui est un sorcier, donc un homme médecine, un chaman. Et donc nous, on le reprend dans cet épisode, qui est un western. Donc dans l'anthologie, il y a des épisodes de culture populaire ou pulps à travers le fantôme de Paris par Jean-Marie. Il y a des épisodes de polar, plutôt hard-boiled par The Clock. Il y a des épisodes de super-héros. Donc il y a un épisode qui est un western, en fait, mais avec donc des personnages de l'univers Centaur. Donc on retrace l'origine de The Arrow, qui n'avait jamais été racontée. Un autre personnage de la continuité Centaur. Et donc on voit The Arrow, jeune archer, on va dire, qui se lance dans l'Ouest sauvage et qui rencontre le Mantoka. Nous maintenant, on a fait en fait un personnage où à chaque génération, il y a un Mantoka. C'est-à-dire c'est une sorte de lignée, de chaman. C'est d'ailleurs plus ou moins, déjà écrit comme ça dans l'épisode de Jack Cole, une cérémonie d'initiation. On voit qu'il y a un passage de totem, c'est le cas de le dire, un mentor qui crée un Mantoka. Et donc pour nous, voilà, il y a toujours un Mantoka qui est là pour protéger les nations indiennes, mais pas que, pour protéger d'une certaine manière la terre, dans le sens que les Indiens donnaient à ce terme, à la terre nourricière. Et donc on a ce personnage. Alors pour parler d'épisode de Jack Cole, donc il est déjà assez extraordinaire parce qu'il met en scène un personnage indien positif, super-héros, qui combat d'ailleurs des cow-boys blancs qui veulent s'emparer de la terre indienne. Et dans l'encadré d'introduction du personnage, il y a un passage de contrition où Jack Cole écrit, ben voilà, en fait, nous, les immigrants américains, on a été, on a failli exterminer les natifs des États-Unis, et donc il y a une sorte de contrition, en disant, voilà, on les a massacrés et c'est injuste. Donc, ouais, c'est un personnage qu'on aime beaucoup, Mantoka, qui reviendra dans des épisodes futurs, ouais.
So long, Mom, I'm off to drop the bomb, so don't wait up for me. But while you swelter down there in your shelter, you can see me on
your TV. While we're attacking frontally, watch Brinkley and Huntley describing contrapuntally the cities we have lost. No need for you to miss a minute of the agonizing Holocaust. Yeah! Little Johnny Jones, he was a U.S. pilot, and no shrinking violet, was he? He was mighty proud when World War III was declared. He wasn't scared, no siree. And this is what he said on his way to Armageddon. So long, Mom, I'm off to drop the bomb, so don't wait up for me.
Vous écoutez Culture Prohibée.
But though I may roam, I'll come back to my home, although it may be a pile of debris. Remember, Mommy, I'm off to get a commie, so send me a salami and try to smile somehow. I'll look for you when the war is over, an hour and a half from now.
On vous rappelle que Jean-Michel Ferragati est à l'origine de l'anthologie Centaur Chronicles, disponible chez FG Prod, que l'on vous conseille vivement. Chers amis bénéphiles, moi je vais vous parler de Slum Kids tome 2. Alors Slum Kids, je vous avais déjà parlé du tome 1, c'est signé Petit Rapace. Alors Petit Rapace, c'est quelqu'un qui fait partie du label 619, c'est un jeune dessinateur hein, qui s'est évadé comment dire, des pages de Low Reader avec ses personnages, ces Slum Kids qui ont maintenant une série qui leur appartient. Alors on est dans un monde post-apo, on est dans un monde assez dégueulasse, avec des décharges à ciel ouvert, où la lutte des classes, elle est vraiment représentée là de manière très physique par cette distanciation entre les deux mondes. Hein. Il y a ceux qui viennent de la bourgeoisie, il y a ceux qui vivent dans les poubelles, il y a les moins que rien, il y a le lumpen prolétariat. Et donc en fait, ce qui va se passer dans ce deuxième tome, dans lequel Petit Rapace continue son odyssée post-catastrophe, donc dans un futur proche, dans cet univers décimé, quasiment une décharge à ciel ouvert, hein, qui peut rappeler d'ailleurs Apocalypse 2024 de L.Q. Jones, hein, c'est dire un peu l'univers de la BD, ou un tout petit peu Mad Max de George Miller. Mais c'est justement parmi les déchets que on va retrouver la petite Ruby. Elle est découverte, mais vraiment, par la lie de l'humanité. Heureusement, l'étrange Igor, un tout petit bonhomme étrange, digne fils caché du joueur de flûte d'Amelin, va la prendre sous son aile. À partir de là, la jolie Ruby et surtout son singulier médaillon attirent toutes les convoitises, et le frêle Igor a quand même beaucoup de difficultés à la protéger de toutes ses attaques. Or, même si, hein, si je vous ai donné un petit indice quand même, c'est avec le joueur de flûte d'Amelin, il a quelques ressources, Igor. Et Igor, il va découvrir une Ruby qui va se révéler fort courageuse, et même il va lui arriver de combattre auprès d'échappés du volume 1. Alors, je vais vous laisser découvrir ça en lisant la BD. Alors, tout aussi sombre et déjanté que le premier opus, ce nouveau Slum Kid ne fait aucune concession. Hein. C'est toujours aussi noir. Il intègre parfaitement l'univers du conte. Hein. C'est le petit plus de ce deuxième volume. Et le récit, là, il est plus maîtrisé. Pour moi, je pense que le volume 2, il est plus pertinent que le premier. Et en plus, le trait de Petit Rapace, qui est à la fois cartoonesque, très street art, ne cesse de s'affirmer pour, paradoxalement, gagner en épaisseur. Et pour nous, en tout cas, ce Slum Kids tome 2, hein, il est à acquérir de toute urgence en attendant un volume 3. Donc Slum Kids tome 2 signé Petit Rapace, c'est un de nos coups de cœur de la rentrée en termes de BD. Et on aime toujours autant, évidemment, ce que fait le label 619 qui est désormais édité par Rue de Sèvres. écoutez Culture Prohibée spécial BD. On va changer d'univers maintenant avec un autre éditeur qui s'appelle Fordis, Fordis Édition, qui fait un très beau travail, puisque à l'équivalent, savez-vous qu'à l'équivalent du cinéma de patrimoine, il existe des éditeurs de BD de patrimoine. Et Fordis fait partie de ces éditeurs, et Fordis, là, se tourne vers l'Italie. Et se tourne vers l'Italie pour nous proposer les polars de Sergio Toppi. Sergio Toppi, c'est pas n'importe qui, c'est un immense dessinateur. Vous connaissez, puisque vous écoutez cette émission, Mon amour des fumetti, et les difficultés quand même à trouver des fumetti qui sont bien édités, dans de bonnes conditions, avec des bonnes traductions. Alors là, c'est un vrai plaisir de pouvoir, du coup, lire ce Nick Reeder, Trace de sang, qui est le premier titre d'une série de trois. Hein, et... Bon, Nick Reeder, c'est un détective qui appartient à la brigade des homicides de New York et qui est un sacré loustique. Voilà. Mais on va revenir plus longuement sur Nick Reeder. Mais avant de vous parler plus en détail de cette aventure qui sera suivie en 2026 de deux autres tomes, Sans respiration et L'éternel repos, qu'on a très hâte de lire, vous dire un peu qui a signé la BD, parce que c'est pas n'importe qui. Alors, il y a Gino D'Antonio, qui est un Milanais, hein, et qui était un Milanais, qui est quelqu'un qui a débuté avec Jess Dakota et qui a fait la fabuleuse Histoire de l'Ouest, parue chez Sepim, que beaucoup de fans de western en BD connaissent par cœur. Il a aussi fait le Soldat Casquella. Il a la particularité de dessiner et de scénariser. Bon, là, il ne fait que scénariser, hein, dans celui-là. Et il a fait une superbe BD sur la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle Des hommes sans gloire, où là, c'est dessiné par Fernandino Tacconi. Et ces épisodes de la série Nick Reeder, là, qu'il signe, c'est plus des boulots, on va dire, alimentaires, hein, y compris pour Sergio Toppi, puisque Sergio Toppi, alors, si vous aimez la BD, vous le connaissez forcément, c'est une légende de la BD européenne. Alors en France, il est connu, très 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 connu, des gens de ma génération, hein, pour tout vous dire, j'ai la cinquantaine, qui ont lu l'Histoire de France en BD, parce que c'est lui qui faisait les illustrations, l'Histoire de France en BD, qui était là aussi plutôt un travail alimentaire. Il va développer un style assez incroyable, en particulier dans Charras D, qui va sortir en 2000, alors là, qui va tout de suite le faire passer au rang de maître de la bande dessinée européenne, et donc il va se retrouver à la Bibliothèque Nationale, et ensuite il va être exposé au musée de la bande dessinée Angoulême. Son trait est absolument extraordinaire, et donc c'est avec, vous imaginez bien, un grand plaisir, du coup, qu'on retrouve Sergio Toppi, là, qui est à ce moment-là, un moment de sa carrière plus compliqué, et qui va devoir faire un peu d'alimentaire, et donc il va travailler sur cette série Nick Reeder. Et donc là, qu'est-ce que ça raconte, cette série Nick Reeder, que nous propose donc de découvrir Fordis Édition? C'est l'arrivée de Jackie Duval, dont la sœur a été tuée et brûlée dans une sordide cabane de Louisiane. Elle arrive au commissariat, bien sûr, où travaille Nick Reeder. Nick Reeder, flic, bien sûr, évidemment, un peu particulier, sinon on n'est pas dans l'univers du roman noir, du film noir. Et elle va lui demander de l'aider. Hein. Elle rencontre le flic tourmenté Nick Reeder, elle lui demande de l'aider, et là on va se retrouver dans une BD très sèche, très hard-boiled school, c'est un terme que j'aime bien employer. Il y a des kidnappings, il y a des courses-poursuites, ça envoie du lourd, quoi. Et c'est une BD qui peut se ranger entre deux tomes de Sin City de Frank Miller ou d'Alexiner de Munoz et Sampaio, tellement le noir et blanc est maîtrisé, hein. Les planches en Louisiane sont sublimes, elles sont superbes, il y a des aplats noirs incroyables, tout ça pour souligner une ambiance poisseuse, il y a des jeux sur les contrastes, il y a une manière d'utiliser le cadre, le découpage est très cinématographique. Et puis, il y a des personnages aussi un peu hors normes. Nick Reeder, il fricote avec une prostituée, un bas à table au coup de pied latéral, par exemple, qui est un personnage assez, assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il va lui confier Jackie Duval, hein, parce qu'elle a quand même à peine 16 ans. Et puis, il va devoir affronter, parce qu'on... Les méchants viennent de Louisiane, ils ont des noms français. Il va devoir affronter Levasseur, le méchant Levasseur. Mais ce que ne sait pas Levasseur, qui prend un peu de haut notre ami Nick Reeder, c'est que Nick Reeder n'est pas un policier comme les autres. Enfin bref, ça tient autant de Ed McBain que de Chester Himes, mais en BD. Donc si je ne vous ai pas donné envie avec ça, j'ai juste une seule chose à dire, c'est vivement la suite. Ça va être long d'attendre mars 2026 pour avoir le prochain tome. Voilà, ça s'appelle donc... Trace de sang, trace au pluriel. C'est signé Gino D'Antonio et Sergio Toppi au dessin et c'est disponible chez Fordis Éditions. C'est le premier tome des aventures de Nick Reeder et on en redemande.
Puisque vous en redemandez, ça tombe bien parce que toujours chez Fordis Éditions, nous allons aborder une bande dessinée parue dans la collection Tourment. Bande dessinée qui s'appelle Un dragon en forme de nuage. Bande dessinée dont le scénario est un véritable événement pour tout cinéphile qui se respecte. Pourquoi ? Car il est signé Ettore Scola. Ettore Scola qui est toujours parmi nous, comme nous le rappelle dans sa superbe préface Jean Gigny, grand spécialiste du cinéma transalpin, auteur du livre référence intitulé Le cinéma italien, paru aux éditions La Martinière. Jean Gigny revient sur le cinéaste, l'auteur entre autres d'Affreux sales et méchants et Une journée particulière, mais aussi sur l'homme, grand humaniste, intransigeant et clairvoyant, peintre de l'humanité dans toute sa complexité. Scola, avec cette tragicomédie nous contant l'histoire d'un libraire parisien et de sa fille paralysée, continue de nous émouvoir. Ce récit, comme nous le révèle Sylvia Scola, fille du maestro, devait être à l'origine un film. Oui, mais voilà, le propriétaire de la société de production Medusa Film, un certain Silvio Berlusconi, s'est offusqué de voir son entreprise produire un cinéaste communiste. Il n'en fallait pas plus à Ettore Scola pour refuser de tourner La Petite, qui était le titre prévu pour ce long métrage. Il refusa de tourner La Petite tant que le Cavaliere serait au pouvoir. L'intransigeant Ettore Scola se priva ainsi d'un film, mais nous permet de savourer une BD du grand artiste italien Ivo Milazzo. Dessinateur et aquarelliste de génie, il travailla avec Ettore Scola et Silvia Scola à la mise en image sublime de ce superbe scénario. Extraordinaire BD, que l'on va plus facilement qualifier cette fois-ci car le titre n'est pas usurpé de roman graphique, aux couleurs sublimes et, bien évidemment, avec un incroyable découpage cinématographique, il suffit de contempler les premières pages muettes de l'ouvrage pour s'en persuader. Un dragon en forme de nuage est un récit touchant dans lequel le lecteur se love, tel un doux rêveur perché sur un cumulonimbus, parce qu'il fallait bien trouver un nom de nuage. Cette librairie, c'est un peu la comédie humaine. Curé, docteur, jeune femme dépressive, amoureux et conduit, venu faire le coup de poing, la terre entière se bouscule chez notre libraire qui n'exige qu'une chose, que l'on respecte les livres. Et puis Pierre, puisque c'est ainsi qu'il se prénomme, est un ange protecteur pour sa fille, clouée à l'étage dans son fauteuil, mutique et fine observatrice, du microcosme en forme de monde qui l'entoure, de Pierre évidemment, qui tombe amoureux, ou plutôt qui tombe en amour. Enfin bref, ce superbe album, mais alors vraiment superbe, proposé par les éditions Fordis dans la collection Tourment, je dis bien superbe parce qu'il y a aussi tout un portfolio avec des images des films d'Ettore Scola, il y a de nombreux écrits, hein, les écrits de Jean Gigny, de Silvia Scola, mais ici de Ivo Milazzo pour décrire cette rencontre, cet amour pour Ettore Scola, et l'homme et son cinéma. Eh bien, ce superbe album s'appelle Un dragon en forme de nuage. Il est donc signé Ettore et Silvia Scola et Ivo Milazzo au dessin. C'est une véritable pépite parce que à cette merveille de scénario humaniste s'ajoute un graphisme superbe où l'aquarelle règne en maîtresse. Donc vous l'aurez compris, Un dragon en forme de nuage est un BD, un roman graphique à posséder absolument dans sa BDTech. Thank you.
Mon cher Thomas, tu es venu comme d'habitude avec une BD africaine, toi qui ne cesses de défendre la BD africaine depuis des années dans nos émissions sur la BD. Et là, tu es venu avec un titre qui, une fois n'est pas coutume, est publié par L'Armatan hein, dans sa collection L'Armatan BD, qui s'appelle Enfa, le fils de Kankula, qui est signé Sansi Kaba Diakité et Kenneth Viotokbe.
Kenneth Viotokbe, qui le dessinateur d'Enfa, le fils de Kankula, qui lui vient du Bénin, alors que Sansi Kaba Diakité, le scénariste, est lui originaire de Kankan, la deuxième ville de la République de Guinée. Et c'est justement dans la région de Kankan que se situe l'intrigue de cette bande dessinée. Tandis que la guerre fait rage, Kabaley, un serviteur de Karamo Ousmane Fofana, entre en terre ennemie pour récupérer un pieu oublié par son maître. Saluant le courage et la fidélité de ce soldat téméraire, le sultan Tinkala Diakité décide de lui laisser la vie sauve. Enfin stratège, il lui propose alors de lui offrir sa fille pour épouse, afin de créer une alliance entre Kaba et Diakité. Ainsi commence la longue épopée des fondateurs de Kankan, Kefina et Kankula. Alors, comme dirait David Ward Griffiths, Nfa, le fils de Kankula, raconte la naissance d'une nation, mais cette fois à travers une histoire familiale. Dans ce premier tome, car il y en aura trois, hein, l'histoire se noue autour de trois générations d'une famille. Le récit est alerte, décrit les différents obstacles que les protagonistes rencontrent, souvent à base de mysticisme, ainsi que les coutumes qu'ils doivent contourner. Au dessin, Kenneth Viotokbe crée différentes ambiances, dont les plus réussies restent celles se déroulant dans les scènes nocturnes. Il arrive à faire ressortir leur aspect étrange et mystique mêlé à un trait plus réaliste. Mais laissons plutôt les auteurs s'exprimer. Hein. Donc, on a interviewé Sansi Kaba Diakité et Kenneth Viotokbe à propos de Nfa, le fils de Kankula.
Alors vous êtes originaires tous les deux de deux pays différents. Kenneth Viotokbe, vous êtes originaire du Bénin. Et vous, Sansi Kaba Diakité, vous êtes originaire de la Guinée-Conakry. Comment en êtes-vous venu à vous rencontrer et à travailler ensemble sur ce projet ?
Je suis éditeur de profession. J'ai un ami éditeur aussi qui vit au Bénin. Lorsqu'il a chargé de trouver un illustrateur, je lui ai demandé, j'ai mis bien sûr en concurrence des illustrateurs en Guinée, j'ai fait des essais. Les illustrations qui m'ont convaincu, c'était les illustrations de Kenneth. Donc, j'ai demandé à mon ami de nous mettre en contact, Stephens, qui a bien voulu faire vraiment le lien entre nous. Et je pense que cette coopération, cette union doit exister entre les pays du continent. Donc, moi, je peux rester à Conakry, travailler avec le Bénin. Donc, quand on faisait le projet, il était à Cotonou. Après, il est venu en France. Il a continué jusqu'à la fabrication. Je l'ai mis en contact avec mon fabricant et le projet allait vite. Donc, je suis très heureux de ce projet.
Et Kenneth Viotokbe, qu'est-ce qui vous a incité à travailler sur ce projet ?
Ce qui m'a plutôt beaucoup intéressé, d'abord, c'est la collaboration avec Sansi, qui est quelqu'un qu'on ne présente plus en Guinée qu'on a créé. Et moi, à la base, j'aime tout ce qui est histoire. J'aime raconter l'histoire. Quand tu dis que tu veux être auteur de bande dessinée, quand tu dis que tu es illustrateur de livres pour enfants, c'est que tu es prêt à raconter l'histoire, c'est que tu es intéressé par l'histoire. Moi, je m'intéresse plus à la bande dessinée historique. Je me suis beaucoup approvisionné en bande dessinée historique. Je ne fais que ça, même si je dois raconter l'histoire par la fiction ou par des faits réels, d'autant plus que la bande dessinée est un art séquentiel par lequel l'auteur raconte une histoire réelle ou imaginaire. Ce qui m'a intéressé avec Sansi, c'est parce que c'est une histoire réelle. Ça permettra aux enfants de la Guinée qu'on a créée et des autres pays comme le Bénin, Togo, etc., et pourquoi pas de tout le monde entier, de connaître l'histoire des autres, parce que pour faire le chemin avec les autres, il faut les connaître. Et pour se connaître, il faut d'abord maîtriser son histoire personnelle afin de partager avec les autres. Et quand il m'en a parlé, quand j'ai proposé des dessins, il a dit, ça me va, il m'a fourni tout ce qu'il faudra. Parce que moi, je n'ai jamais mis pied en Guinée pour dessiner ce village de Kankan. Il m'a fourni des photos, ce qui m'a permis de faire des recherches graphiques. Et c'est allé très vite. Dès qu'il a le temps, il voit ce qui ne lui convient pas, il le dit. Et ça a continué comme ça avec le temps.
Sansi Kaba Diakité, vous êtes le scénariste de Nfa, le fils de Kankula. Une bande dessinée dans laquelle le mysticisme occupe une grande place. Alors vous dites que vous, vous vous êtes inspiré de l'histoire de Cancan, hein, de l'éviction l'érection de ce village, de cette ville. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces événements? Parce que ça frappe beaucoup dans la bande dessinée. Elle occupe une grande place, le mysticisme.
C'est mon grand-père qui me disait que toute histoire qui n'est pas racontée est oubliée. Lorsqu'une histoire est oubliée, c'est comme si cette histoire n'a pas existé. Donc, on nous a expliqué quand nous étions petits comment le nom Kabagyakti a été composé. C'est par le grand-père Kabalai, qui était vraiment élève d'un célèbre maître coranique, Rabbi Ousmane Fofana, qui voulait répandre l'islam, qui voulait répandre vraiment ce qu'il faisait des valeurs. Donc, il a été confronté vraiment au royaume de Gara. Donc, ils sont allés, ils n'ont pas pu franchir. Il a oublié son pied. Lorsqu'il a oublié son pied, il a demandé vraiment à ses élèves qui pouvaient aller. Kabalai a été courageux. Il savait ce qu'il attendait, mais la parole donnée est à respecter. Il est allé à la recherche du pied de son maître et ça s'est terminé vraiment en paix parce que dans ces zones, il y avait toujours des moments de conflit entre les régions, entre les peuples. Mais Kabalai est allé en paix. Il est revenu avec une femme et c'est cette femme qui a été une femme célèbre, une femme extraordinaire que nous rendons hommage. Et il avait promis que le nom de Banco Gakité, le nom de famille, il avait promis ça au sultan, que serait vraiment ce nom va accompagner ses enfants et ses petits-enfants. Donc, c'est une belle histoire qui est en chanson aujourd'hui. Moi, je l'ai mise en scénario en bande dessinée. Je vais faire aussi sortir au mois de novembre le livre officiel. Et pour moi, c'est stratégique que nous passons par la bande dessinée pour faire passer vraiment l'histoire et des choses exceptionnelles.
Mais ma question portait sur le mysticisme qui est très présent dans la bande dessinée. Ce sont des événements donc, qui vous ont été rapportés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus?
Les événements nous ont été rapportés et moi j'ai essayé de les mettre en contexte, les simplifier pour que des enfants, des jeunes ados puissent les comprendre. Par exemple, lorsqu'on parle vraiment des Kondé et des Kaba, Fodemoudou Kondé et de Fodemoudou Kaba, leur rencontre des choses, c'est vraiment, ça nous a été raconté, mais si on se met à parler toujours, l'histoire sera un jour oubliée. Donc moi, j'ai préféré vraiment passer par la bande dessinée, par l'écrit, pour que ces histoires-là puissent rester, pour que vraiment les enfants puissent avoir accès. Donc, il y a des moments importants dans la bande dessinée où on va à la recherche de la ville, où les gens se rencontrent et tout ça.
Sansi Kabadiakité, donc vous l'avez précisé, hein, vous êtes éditeur, vous êtes aussi éditeur, en plus d'être scénariste. On dit en France que les Français lisent moins et puis on dit aussi qu'en Afrique il y a surtout une culture, une tradition orale. Hein. Quelle est la place du livre aujourd'hui dans la société africaine et plus particulièrement la bande dessinée?
Je vais vous donner des chiffres hein, pour vous expliciter. Moi j'ai commencé ma maison d'édition en 2005. On me disait que si vous voulez cacher vraiment quelque chose en noir, qu'il faut mettre dans le livre. Ça me choquait. Je me disais, je peux jouer ma partition pour que la lecture soit un sport national. Donc, ce qui fait que les gens ne lisent pas, parce qu'ils n'ont pas accès. Il n'y a pas de point de lecture, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de médiathèque. Aujourd'hui, nous, on a essayé de développer ces choses et je vous assure que les jeunes en Guinée aujourd'hui commencent à lire parce qu'on a créé 26 points de lecture dans le cadre de notre projet Conakry Capitale Mondiale du Livre. Avec le Centre culturel franco-guinéen, il y a eu une médiathèque, la Bibliothèque nationale qui a été reconstruite. Quand les gens ont accès à des choses, il y a la promotion, il y a la liberté, les choses peuvent se réaliser. Donc, avec la lecture numérique aujourd'hui, la lecture papier, les deux se complètent. Moi, je dis aux gens, ceux qui lisent par la version numérique et nous qui lisons par la version papier, on doit se compléter. Moi, je commence des livres papier que je termine parce que j'ai des e-books. Je peux commencer des lectures en numérique et je termine par des choses. Donc, ce qu'il faut dire, vraiment, il faut faciliter les choses pour que les Africains aient accès aux livres. S'ils ont accès, ils vont lire parce qu'ils ont soif de lecture. Maintenant, ce que la bande dessinée représente vraiment dans tout ça, moi, j'ai remarqué que les enfants sur le continent n'ont pas accès à beaucoup de bandes dessinées qui racontent notre histoire. Les bandes dessinées qu'on leur fait venir souvent, c'est des bandes dessinées d'ailleurs, ça ne les attire pas. Et en faisant Oufa, fils de Kankula, aujourd'hui, tous les enfants de ma famille ont lu ça. Les enfants de Kankan sont en train de lire. Moi, je suis impressionné. Ça veut dire, si on raconte l'histoire vraiment de nos communautés, l'histoire de nos pays aux enfants, ils vont se mettre à la lecture et c'est très très important.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, avec un petit coup de main à la technique de Damien Demédie, la bête noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler à l'architecture sonore de l'ensemble, de l'indispensable Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine!